Bonsoir à tous. Ce serait un retour 50 ans en arrière aux États-Unis. La Cour suprême envisage de revenir sur le droit à l'avortement. Le président américain s'insurge et une bataille politique s'engage. Nous serons en direct de Washington dès le début de ce journal. Les communistes à leur tour valident l'accord avec la France insoumise, plus compliqué avec les socialistes. Jean-Luc Mélenchon est arrivé ce soir à la table des négociations. Et puis Manuel Valls retente sa chance de son côté, la 5e circonscription des Français de l'étranger. L'actualité, c'est encore les ultimes résistances de la Syrie Azovstal sous un déluge de feux russes cet après-midi, alors qu'Emmanuel Macron s'est entretenu plus de 2 heures avec Vladimir Poutine, du travail dissimulé sur les chantiers des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis, et puis la taxe inondation qui pourrait bien augmenter pour certains contribuables. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, ce sont les accords à gauche qui nous intéressent, bien sûr, avec Europe Écologie Les Verts et les communistes. Donc, c'est fait encore douloureux pour le Parti Socialiste, tout de même. Voilà qui nous fait réviser un petit peu l'histoire de la gauche, le programme commun de 72, la gauche plurielle de 97. Que disent les tractations 2022, recomposition intégrale ou alliance de circonstances, pacte de raison ou pacte faustien? Vos questions, vos réflexions au 01 45 24 7000.
France Inter. La bataille politique est donc bel et bien engagée aux États-Unis. Après la fuite inédite la nuit dernière d'un avant-projet de décision de la Cour suprême, la plus haute institution judiciaire, qui ferait de l'avortement un droit à la carte, état par état, un retour 50 ans en arrière. À peine l'information connue, des centaines de personnes se sont rassemblées devant ce temple du droit américain, acquis à la cause républicaine depuis le mandat de Donald Trump. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes sur place où partisans et opposants se font face.
Oui, c'est à celui qui criera le plus fort devant le bâtiment qui se trouve juste derrière le Capitole ici. Et les slogans se mélangent. D'un côté, il y a les défenseurs de l'avortement qui crient « Mon corps m'appartient ». De l'autre, les opposants à Roe contre Wade qui chantent que l'arrêt va être annulé. Et parmi ces opposants à l'avortement, il y a Louis, il a 19 ans. Il explique que ce n'est pas encore la victoire, mais que les choses vont dans la bonne direction, que la fuite, le document obtenu par Politico n'aurait pas dû arriver, mais qu'il se félicite de l'option qui semble prise par les juges, qui doivent rester sur cette ligne, selon lui, et ne pas se laisser influencer. À quelques mètres, il y a Rachel, 25 ans, piercing dans le nez. Elle défend, elle, le droit de choisir de poursuivre ou non une grossesse. Elle dit qu'elle n'a pas été surprise des révélations. D'après elle, les opposants mènent une croisade depuis 15 ans pour remettre en cause les droits humains fondamentaux. Et elle voudrait que ce premier avis, qui n'est pas donc une décision, premier avis des juges, fasse peur à tout le monde.
C'est une déflagration politique, hein, Sébastien, qui illustre aussi les fractures politiques dans le pays.
Oui, la classe politique est à l'unisson de ces deux manifestants qu'on vient d'entendre, polarisés et qui sont prêts à rester mobilisés jusqu'à la décision de la Cour fin juin. Les démocrates regrettent un recul de la démocratie quand les républicains applaudissent déjà. Et Joe Biden, lui, prend date, vous en avez parlé, avec les élections de mi-mandat du mois de novembre. Le président américain rappelle dans un communiqué qu'il croit que le droit d'une femme de choisir est fondamental et que l'équité de base et la stabilité de notre droit, je cite, exigent que Roe contre Wade ne soit pas renversé. Il appelle les électeurs à élire des représentants pro-avortement en novembre. Enfin, dernier point, en interne, ici à la Cour suprême, c'est aussi la stupeur qui domine et la colère. Le président de la Cour, le juge Roberts, confirme dans un communiqué que le document qui a fuité est bien authentique, mais qu'il ne s'agit pas d'une décision finale. Il parle d'une violation flagrante de la confiance en l'institution et il annonce une enquête pour trouver l'origine de la fuite.
Sébastien Paour, en direct de Washington. 6 questions sur cette possible remise en cause du droit à l'avortement aux États-Unis. C'est un article à lire aussi sur franceinter.fr.
Y a-t-il un chemin pour un accord au bout de cette petite impasse parisienne?
Là où se trouve le siège de la France insoumise et où depuis ce week-end passent et repassent écologistes, socialistes et communistes, tractation pour une union aux législatives. C'est toujours compliqué avec les socialistes qui continuent de discuter pied à pied, mais c'est acté avec les communistes, validé par le Conseil national cet après-midi. Bonsoir Julie Drouin.
Bonsoir.
Vous ne manquez rien de ce qui se passe depuis dimanche là-bas. Vous venez d'ailleurs de voir Jean-Luc Mélenchon arriver. Alors qu'y a-t-il dans cet accord conclu avec les communistes?
Eh bien, dans le détail, le Parti communiste s'est rangé derrière plusieurs mesures du programme de Jean-Luc Mélenchon. Le SMIC à 1 400 €, Fabien Roussel le voulait à 1 500, la retraite à 60 ans, la planification écologique. Il n'est par contre pas question du nucléaire, sujet qui faisait débat entre les deux partis. Les communistes ont obtenu la formation d'un grand pôle public financier. Côté circonscription, ça sera 50, dont 16 circonscriptions gagnables. Et le chef de la délégation communiste est très satisfait. On écoute Igor Zamichei.
Vous savez, avec Fabien Roussel, c'est la France des jours heureux. Alors on est souvent heureux et on l'est particulièrement aujourd'hui avec cet accord, parce que je crois que c'est un moment important de l'histoire de la gauche aujourd'hui. Nous venons de rejoindre cette union populaire, écologique et sociale. Et peut-être d'ailleurs que dans quelques heures, je l'espère, toutes les forces de gauche seront réunies dans cette union. Et c'est une très bonne nouvelle d'abord pour les Français, parce que si nous atteignons notre objectif, si nous arrivons à conquérir cette majorité à l'Assemblée nationale, alors dans les semaines, les mois qui suivront le mois de juin, nous pourrons avoir des réformes concrètes pour la vie de nos concitoyens, sur les salaires, sur les services publics, sur le pouvoir d'achat.
Cet accord, c'est donc un nouveau coup de pression pour les socialistes. Il ne reste plus qu'eux. Et la France insoumise a prévenu cet après-midi. Si rien n'est conclu d'ici ce soir, l'accord pourrait se faire sans eux. Les négociations se poursuivent. Dorénavant, vous l'avez dit, en présence de Jean-Luc Mélenchon, arrivé tout à l'heure au QG des Insoumis.
Julie Drouin avec Stéphane Beaufils, la France insoumise qui met un coup de pression aux socialistes. Ça discute encore des circonscriptions, de la place de l'Europe dans le programme commun. Et sur ce point, les écologistes ont fait une concession de taille ce week-end, ouvrant la porte à une désobéissance des traités dans des cas bien précis. Et ça choque certains députés européens, les Verts allemands surtout. C'est le reportage à Strasbourg d'Angélique Bouin.
Ils ont crevé l'abcès dès hier soir lors de leur première réunion de groupe ici à Strasbourg, explique l'eurodéputée allemande Anna de Parnay-Grönenberg, que l'accord a vraiment surpris.
Retrouver un parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts ensemble avec la France Insoumise, même si à un niveau contexte national on se dit c'est peut-être compréhensible, mais à un niveau européen c'est à grince fort.
En particulier chez les Verts allemands, majoritaires dans le groupe et dont la plupart ont été stupéfaits par le concept de désobéissance au traité.
Désobéir à l'état de droit, c'est ce que nous, les écologistes européens, reprochons à Orban, à la Pologne.
Alors certes, ajoute-t-elle, il y a des pays qui se mettent parfois hors des clous, mais sans l'avoir programmé.
Ce n'est pas la même chose si quelquefois les pays ne réussissent pas, par exemple à rendre des comptes en la qualité de l'air ou de l'eau, que de dire dès le début « le moteur de ma politique, c'est de désobéir ».
Un concept qui a moins choqué dans d'autres pays. Nos collègues français nous ont rassurés, dit ainsi l'Espagnol Ernest Urtasun, sur cet accord que l'on peut d'ailleurs lire, ajoute-t-il en souriant, de plusieurs façons.
C'est un compromis. Moi, je ne vois pas un grand scandale derrière. Non. On peut voir aussi cette affaire d'un point de vue d'une progression vers des positions plus pro-européennes de la France insoumise.
Loin d'être clos, le sujet est à nouveau abordé ce soir en réunion de groupe. Il ne faudrait pas que les électeurs français doutent de notre engagement européen, estime leur chef de file, le Belge Philippe Lamberts. Strasbourg, Angélique Bouin, France Inter.
Et la géographie des candidats aux prochaines législatives s'enrichit chaque jour de nouveaux noms. Manuel Valls revient dans le jeu aujourd'hui. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
L'ancien Premier ministre espère briguer la 5e circonscription des Français de l'étranger.
Son investiture devrait être validée, oui, dans les prochains jours. Ce qui est sûr, c'est que Manuel Valls l'a demandé il y a longtemps, selon nos informations. Il est sur les rangs depuis 3 mois. Cette circonscription, c'est celle qui comprend Monaco, Andorre, mais surtout le Portugal et l'Espagne, son pays natal, où il avait déjà tenté, souvenez-vous, de relancer sa carrière politique en 2018 avant de voir sa candidature à la mairie de Barcelone se solder par un échec cuisant. Un an plus tôt, en 2017, c'est avec seulement 139 voix d'écart qu'il avait été élu député de l'Essonne, sans l'investiture d'En Marche, mais avec le soutien implicite d'Emmanuel Macron qui n'avait pas présenté de candidat face à lui. Cette 5e circonscription des Français de l'étranger devrait en tout cas lui assurer une victoire confortable, mais Manuel Valls espère surtout qu'elle sera un marchepied vers un poste de ministre, voire vers Matignon, ce qui a le don d'agacer au plus haut point bien des marcheurs. L'un d'eux, un historique, n'hésite pas à tacler des deux pieds et c'est cruel. Vous voyez bien qu'on est écolo, on recycle tout et n'importe quoi.
Simon Le Baron, et pendant ce temps, les consultations se poursuivent à l'Élysée pour le casting du gouvernement. Seule certitude finalement aujourd'hui, ce sera la date choisie pour la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Ce sera samedi prochain à partir de 11h à l'Élysée. Et ce sera sobre, fait savoir l'entourage du chef de l'État.
Pardon,
Emmanuel Macron, qui a échangé plus de deux heures avec Vladimir Poutine aujourd'hui. C'était le premier échange entre les deux dirigeants après un mois de silence. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Hélène.
Et le dialogue de sourds semble continuer.
Malgré la vingtaine d'appels téléphoniques passés par le président français à son homologue russe depuis décembre 2021, rien ne semble ébranler le Kremlin. Au moment où l'armée russe lance un assaut contre l'usine Azovstal de Mariupol, Emmanuel Macron demande à Vladimir Poutine de permettre la poursuite des évacuations entamées ces derniers jours, conformément au droit international humanitaire. Il répète sa disponibilité pour une solution de paix négociée, garantissant la souveraineté de l'Ukraine. Le président français se dit prêt à travailler avec les organisations internationales pour lever le blocus mis en place par la Russie en mer Noire des exportations de denrées alimentaires ukrainiennes, blocus qui affecte la sécurité alimentaire mondiale. Il appelle aussi le Kremlin à mettre un terme à son agression dévastatrice. La Russie devant être à la hauteur de ses responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité. Mais selon Vladimir Poutine, c'est à l'Occident d'exercer une influence sur les autorités de Kiev et d'arrêter les fournitures d'armes à l'Ukraine. Le dirigeant russe se dit ouvert au dialogue, mais considère que les Ukrainiens, je cite, « manquent de préparation dans les pourparlers de paix ». Ce long échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine fait suite à la conversation du président français avec Volodymyr Zelensky samedi dernier.
Et un échange alors que les bombardements s'intensifient sur l'usine Azovstal de Mariupol. Un puissant assaut, disent les Russes, Éric Biegala.
À peine quelques heures après la sortie d'une centaine de civils des sous-sols d'Azovstal à la faveur d'un cessez-le-feu hier obtenu par les Nations Unies, le CICR, les forces russes avaient repris leur pilonnage de l'immense quartier industriel que représente le complexe des aciéries Azovstal. Pilonnage aux lance-roquettes multiples, à l'artillerie navale et bombardements aériens une bonne partie de la nuit et ce matin encore. Vers 15h cet après-midi, le commandant en second du bataillon Azov, qui défend la position ukrainienne, le capitaine Sviatoslav Palamar postait ce court message vidéo. En ce moment même, expliquait-il, un important assaut sur le territoire du complexe industriel Azovstal est en cours, avec des véhicules blindés, des tanks. Ils ont aussi tenté de débarquer par la mer. Ils ont beaucoup d'infanterie. Nous ferons notre possible pour repousser cet assaut, mais il faudrait évacuer les civils qui restent. Difficile d'imaginer une évacuation de civils, il en resterait au moins une centaine coincés dans les sous-sols de l'usine, alors même qu'un assaut d'infanterie est en cours. Mais pour ce qui est de réduire militairement la position d'Azovstal, les troupes russes sont encore loin du compte. La zone est complexe, près de 10 km², truffée de souterrains, 24 km de corridors et de bastions enterrés sur 8 niveaux. S'ils ont les vivres et les armes nécessaires pour la défendre, les hommes du bataillon Azov peuvent y tenir longtemps.
Éric Biegala, et puis à l'étranger, cette menace brandie depuis plusieurs mois qui s'est concrétisée aujourd'hui. Le Mali décide de rompre les accords de défense signés avec la France depuis 2013. Une décision injustifiée, regrette Paris. Après les violences du 1er mai en marge du cortège parisien, 47 personnes placées en garde à vue, les premières comparutions immédiates ont lieu aujourd'hui au Palais de Justice de Paris. Audience que vous suivez, bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
Avec sur le banc des prévenus, des personnes qui n'avaient jusqu'ici jamais été condamnées.
Oui, la plupart étaient cagoulées dans le cortège. Il y a d'abord cette jeune femme de 23 ans, sans emploi. Elle reste silencieuse alors qu'on lui reproche des violences, un jet de bouteille sur les forces de l'ordre. Il y a aussi ce jeune homme de 18 ans qui vit en foyer et ce jardinier de 34 ans qui avait des pétards dans son sac. « J'aurais pas dû faire cette connerie », lâche-t-il à la barre. Alors que le procureur s'inquiète, monsieur a déclaré en garde à vue « Les policiers, on peut les blesser, c'est leur métier ». Arrive enfin cette femme de 28 ans aux cheveux rouges. Elle est accusée d'avoir résisté lors de son interpellation, d'avoir frappé dans le casque d'un policier et de l'avoir insulté. Ce n'est pas la première fois qu'elle est arrêtée en manifestation. Elle a cette volonté de venir au combat, lance le procureur. « Je suis street medic », se défend la prévenue. Elle assure qu'elle était là pour soigner. Pour l'heure, trois d'entre eux sont placés sous contrôle judiciaire en attendant un prochain procès. Ils veulent préparer leur défense. Ils ont tous une interdiction de manifester. Si on vous surprend dans une manifestation, vous partez immédiatement en détention, prévient le tribunal.
Mathilde Vinceneux en direct du Palais de Justice. Et puis, une ancienne institutrice a été condamnée aujourd'hui à 4 mois de prison avec sursis par la cour d'appel de Bordeaux pour homicide involontaire. Il y a 7 ans, dans sa classe spécialisée de Périgueux, une fillette trisomique de 8 ans avait été poussée par la fenêtre par un autre élève considéré comme psychotique. L'enseignante, qui s'était absentée quelques secondes pour chercher des feuilles, avait été relaxée en première instance.
La fin fin de la taxe d'habitation pourrait faire bondir un autre impôt payé par les propriétaires.
La taxe Gemapi qui sert à financer la prévention des inondations, prélevée en même temps que la taxe d'habitation et que la taxe foncière par la moitié des intercommunalités aujourd'hui, jusqu'à 40 euros, c'est le plafond, sauf qu'avec la disparition progressive de la taxe d'habitation, les locataires ne seront bientôt plus assujettis à cette taxe. Bonsoir Martin Delacour.
Bonsoir.
Et les propriétaires pourraient devoir compenser.
Effectivement, dans certaines communes, cette taxe flambe et dans d'autres, elle vient d'être instaurée. C'est le cas dans l'agglomération des Pays de Meaux, touchée par de nombreuses inondations ces dernières années. Les élus ont jugé que de grands travaux étaient nécessaires. Ils ont donc voté, il y a un mois, la mise en place d'une taxe Gemapi, dite taxe inondation. Régis Sarrazin, maire de Nanteuil-les-Meaux, est le vice-président de l'agglomération en charge du dossier.
Il faut faire des travaux un peu partout. Alors des travaux de stockage pour essayer de retenir l'eau, puis des travaux de ralentissement d'eau pour qu'elle n'arrive pas trop vite.
La nouvelle taxe a été fixée à environ 18 euros. Elle sera visible sur la prochaine taxe foncière payée par les propriétaires. Mais cette taxe Gemapi est-elle un moyen également de compenser la perte de la taxe d'habitation, définitivement supprimée le 1er janvier prochain? Régis Sarrazin s'en défend.
À partir du moment où vous levez la taxe, toutes les sommes seront fléchées vers des travaux Gemapi. Et d'ailleurs, elle n'est levée et elle ne continuera qu'à partir du moment où il y aura des travaux à faire.
Cette taxe Gemapi est plafonnée à 40 euros, vous l'avez dit. Elle est souvent bien en dessous de ce chiffre. Mais il est possible que certaines personnes paient plus, notamment si elles possèdent plusieurs biens dans une intercommunalité.
Et l'addition pèse lourd, décidément, au moment de remplir son chariot. Les prix des produits alimentaires ont encore grimpé de 3% en avril, selon les dernières données de l'Institut de Recherche et d'Innovation. Toutes les marques sont concernées, mais la hausse se ressent plus encore sur les premiers prix. Et on en vient au chantier des Jeux Olympiques en région parisienne. Les délais se resserrent, il reste 2 ans, mais la CGT alerte sur les pratiques de certaines entreprises sous-traitantes qui, en l'occurrence, étaient chargées de construire le village des Jeux à Saint-Ouen et qui sont aujourd'hui accusées d'avoir eu recours à du travail dissimulé. Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Hélène.
L'inspection du travail est intervenue et a mis fin au contrat de 8 personnes. Toutes ont depuis un titre de séjour, mais elles ont travaillé sans papier pendant 6 mois.
Oui, et pour le groupe GCC, c'est le 8e groupe français. Ils ont une grue et des dizaines d'hommes qui s'activent en ce moment à ériger le village olympique au bord de la Seine. Mamadou Konté était chargé jusqu'à sa régularisation des coffrages pour le béton.
On fait tout ce qui est matériel lourd, travail dur, 8 heures de temps.
8 heures par jour?
6 heures par semaine, oui.
Et vous faites le calcul, 48 heures par semaine pour 1400 euros en espèces ou par virement. En fait, ce n'est pas GCC qui a salarié directement ces Maliens, mais un ensemble de sociétés, écrans avec des gérants faisant office de prête-nom, de la sous-traitance en apparence. Tout a l'air légal pour Alassane Traoré, autre ouvrier.
C'est le contrat, c'est un contrat CDI. Nous, on ne peut pas le savoir que c'est un faux contrat. On a obtenu la régularisation déjà. C'est une étape, c'est une belle victoire. Parmi tant d'autres.
Une régularisation avec des papiers, mais aujourd'hui, les 8 Maliens se retrouvent sans travail. Francis Antoine de la CGT Construction qui a suivi leur dossier.
C'est choquant, surtout que quand on sait qu'il y a eu une charte sociale qui a été signée par les organisations syndicales, par les employeurs. C'est un chantier vitrine, que ça soit sur les salariés comme sur les conditions de travail.
La CGT qui exige l'embauche immédiate de ces Maliens par l'entreprise GCC, qui n'était pas joignable aujourd'hui pour répondre à nos questions.
Et reportage et information signée William Delesseux. Puis on peut dire qu'ils ont le sens du timing. Les Sex Pistols vont rééditer leur titre phare dans quelques semaines. God Save the Queen, titre emprunté à l'hymne national britannique qui va ressortir fin mai, quelques jours avant, vous savez quoi évidemment, les célébrations des 70 ans de règne d'Elisabeth II. Ça ne manque pas de sel quand on se rappelle que le titre compare la monarchie à un régime fasciste, dit que la reine n'est pas un être humain et que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle avait été bannie, cette chanson, de la radio et de la télévision publique à sa sortie.
Voilà, et en même temps ça n'a rien changé à la longévité de cette reine, cette chanson des Sex Pistols, ça se trouve ça lui porte bonheur. Donc merci beaucoup Hélène Filly, on se retrouve évidemment demain. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. On parle de quoi à votre avis? De la gauche, ses accords et désaccords, avec vos questions au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Jean-Pierre, un mot temps gris demain matin dans le nord-ouest notamment.
Oui, effectivement Fabienne, prévoyez en fin de nuit une bonne tartine de grisaille doublée de bandes brouillard entre la Bretagne et la Normandie et jusque vers les plages picardes et du nord-Pas-de-Calais. Leur dissipation se fera tardivement en cours de matinée. Ça sera bien gris aussi dans le sud-ouest avec en prime de faibles pluies. Et puis vous retrouverez un temps instable avec des averses du massif central aux différents reliefs de l'est. Et comme aujourd'hui, les orages vont démarrer assez rapidement en matinée. Partout ailleurs, vous profiterez de belles éclaircies. L'après-midi, les averses orageuses seront fréquentes de l'Auvergne au massif alpin et de la Bourgogne-Franche-Comté au département du Nord-Est. Et puis dans les autres régions, le ciel sera partagé entre éclaircies et cumulus de beau temps. Les maximales évolueront entre 17 et 24 degrés avec 17 à Brest, 19 à Nancy et Dijon, 20 dans la capitale, 21 à Bastia, 22 à Bordeaux, 23 à Perpignan, puis on ira jusqu'à 24 degrés à Nîmes et Marseille.
Et merci beaucoup Jean-Pierre Hameau de Météo France.